Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension, wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi, rabbi ya'arf mimouna, mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chain 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chain 3 et sur la page Twitter Au cœur de l'islam Chain 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous sur les ondes positives de Au cœur de l'islam, l'émission d'Alger Chain 3 qui titille notre curiosité, qui éveille nos consciences et qui nous pousse à donner la meilleure version de nous-mêmes en suivant bien sûr un comportement bien précis, celui du guide des meilleurs des fils d'Adam, celui aussi qualifié de lumière dans tous les livres sacrés. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nous commençons notre exploration des écritures sacrées à la quête des prophéties des premiers messagers annonçant la venue de celui que l'Éternel a appelé pour le salut des nations, pour être la lumière de ces nations, celui qui établira la justice, celui pour qui aussi l'Éternel a juré de donner sa gloire à lui seul et rien qu'à lui, à aucun autre des fils d'Adam, le fils de Kédar qui accomplira les promesses de Dieu et qui chantera la gloire de Dieu sur les montagnes, sur la ville et sur les villages de Kédar, qui est bien sûr
la Mecque.
Kédar, le fils de Ismaël alayhi salam.
Cité au moins deux fois dans l'Ancien Testament, il est cité, il y a Kédar et Nébaïot aussi. Ce que vous venez de citer là justement, qui chantera, il est dit quelque part dans l'Ancien Testament, un nouveau cantique, et ce chant, cette célébration, ceci parle avec des détails incroyables du pèlerinage et de la station à Arafat. Et personne ne peut nier cela. Nous le verrons, Inch'Allah, quand nous étudierons.
Très bien. Alors, Kamel Shekat, pourquoi l'on parle aujourd'hui de l'évocation de Sidna Rasulullah dans les livres sacrés, dans les écritures anciennes? Pourquoi est-il important de rappeler l'évocation du dernier des messagers dans ces livres? Et pourquoi, d'ailleurs, a-t-il été évoqué?
Il est tout à fait plausible, tout à fait normal et même rationnel qu'il soit mentionné dans tous ces livres, vu que cette personnalité allait jouer un rôle déterminant dans la restauration même du monothéisme. C'est par cette personnalité qui n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'allaient se clôturer tous les messages divins. Après lui, il n'y avait plus lieu qu'il y ait une relation entre la terre et les cieux, par l'entremise de Jibril alayhi salam ou de quelque révélation que ce soit, contrairement à ce que pourrait penser l'Ahmadiyya. Maintenant, cette question justement de l'authenticité du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est posée déjà avec sa venue, et essentiellement à Médine, là où il y avait des juifs, là où il y avait des érudits, là où il était possible aussi de rencontrer des chrétiens. Le problème, il est très très ancien. Par la suite, tous les apologistes essentiellement chrétiens ont écrit sur Mohammed. On l'a tantôt décrit comme étant l'antéchrist, ensuite un usurpateur, l'imposteur. On l'a traité de tous les noms, quelqu'un qui a inventé une religion. Vous savez, il y a même des écrits qui disent que Mohammed était un érudit, qu'il aspirait à la papauté. Quand il ne l'a pas eu, il s'est improvisé prophète. Je vous laisse imaginer l'ampleur des écrits qui concernaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déjà à partir du deuxième, troisième siècle de l'Égypte. Maintenant, il devient plus qu'important que les musulmans d'aujourd'hui aient une connaissance de tous ces textes. qui parle du dernier messager, du sceau des messagers, qui ne parle pas forcément d'un messie. Le messie, celui qui a été oint par Dieu, c'est-à-dire celui qui a été baigné dans une huile sacrée, etc. Non, nous parlons, le seul messie que nous reconnaissons, nous musulmans, c'est Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam est très très important dans cette histoire, parce qu'il aura aussi à jouer un rôle capital durant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle qui a clôturé toutes les prophéties qui l'ont devancée. Donc il est très très important que les gens aient cette culture.
Continuons avec ce sujet très important des prophéties révélées dans les anciens livres. Alors Kamal Shakat, certains pensent qu'utiliser les prophéties comme preuve de la véracité de Sidna Rasulullah est une méthodologie très importante, mais malheureusement toujours négligée chez les musulmans ou chez les autres. Et qu'implique-t-elle? Un devoir de vérité, de responsabilité.
Négligé peut-être chez les musulmans d'aujourd'hui, mais elle ne l'a pas été par les premiers. Tous les grands exégètes musulmans, si vous lisez leurs exégèses, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient une très très bonne connaissance de ces écrits-là. Même que si vous vous fiez à ce fameux livre de l'imam al-Qarafi qui s'intitule « Ajwibatul Fakhira », ce livre vous cite des passages des deux testaments, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau, en citant Muhammad al-Mahmoud, celui qui est digne d'être loué, etc. Ce qui va rejoindre la notion de, pas forcément le paraclète avec la traduction de paraclétos, mais paraclète avec la traduction de péricultos, comme disait Abd al-Ahad Yahya Daoud. David Benjamin Keldani, rahmatullahi alayh. C'est un grand prêtre de nestorien.
Un ancien archevêque, professeur.
Oui, professeur émérite, etc. Et quelqu'un qui était vraiment, qui jouissait d'une place de choix dans l'église orientale et qui s'est converti à l'islam. Et donc lui rapporte justement que beaucoup de textes ont été altérés juste pour cacher justement tout ce qui pourrait rapprocher ces textes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que paraclétos, ça pourrait être l'avocat, ça pourrait être le consolateur, mais péricultos, c'est le digne d'être loué. Ça rejoint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ahmed Zidet remet en cause justement ce terme de consolateur, hein.
Oui, absolument, absolument. De toute manière, vous savez, il y a toujours eu ce jeu, entre guillemets, chez les falsificateurs des deux Bibles. Ben, c'est comme Bakka, qui va devenir la vallée des pleurs, Wadi al-Bukha, alors que Bakka, nous le savons très bien, c'est le nom de la Mecque, et les noms propres ne se traduisent pas, tout simplement. C'est comme...
Évoqué même dans le Coran, Bakka.
Oui, absolument. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas illadhi bi Bakkata. Qalu Bakkata li'annaha tabukku ru'us. Les gens, quand ils s'approchent du cube, parce que Bakka, c'est le cube noir que nous connaissons tous avec son entourage, sa périphérie immédiate. La ville s'appelle Mecca, mais l'enceinte même de la maison sacrée s'appelle Bakka, elle s'est toujours appelée Bakka. Et dans bon nombre de passages bibliques, il est question de Paran, que nous allons trouver sous différentes déclinaisons, et même avec le El, E-L, qui est l'article arabe, El Paran et El Faran. Mmh. Donc il y a énormément de choses qui ne peuvent que suggérer qu'il s'agit là de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa descendance.
Mais Kamal Shakat, le Coran a prouvé la validité et la véracité de Sidna Rasulullah comme prophète, comme messager, comme dernier des messagers. Pourquoi recourir aux autres livres? Que cherchons-nous justement? Pourquoi chercher cette légitimité dans les livres anciens?
Nous ne cherchons pas de légitimité. La légitimité, nous l'avons dans le Coran. Ce que nous cherchons, c'est à démentir tous ces gens qui calomnient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui veulent le faire passer pour un imposteur, tout simplement.
Et donc Dieu a dit dans la sourate al-Baqarah, la Genèse, verset 146, Bismillahirrahmanirrahim, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants.
Or une partie d'entre eux
cache la vérité alors qu'ils la savent.
Oui, absolument.
Il est aussi dit, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est-il réellement évoqué dans les livres anciens, Kamal Shekat? Quand remonte la première évocation? Dans quel livre? Avec quel prophète?
Écoutez, à ma connaissance, hein, la plus ancienne remonte aux Védas. Les Védas, alors il y a 4 Védas. Il y a une autre tradition qui est, on va dire, subordonnée aux Védas, qu'on appelle les Puranas. Et dans les Védas, il y a 2 personnalités qui sont citées. Il y a le Kalki Avatar et il y a une autre personnalité, Narashansa, si je ne m'abuse. Mais pour ce qui est du Kalki Avatar,
Avatar,
oui. Certains judéo-chrétiens ont tenté de démentir tout cela en disant que les musulmans sont en train de fabuler, ils sont en train d'inventer des choses, alors que non. L'auteur du livre Kalki Avatar ou Kalki Avatar, qui n'est autre que Ved Prakash et qui était un pundit brahman, spécialiste du sanskrit. Il y a aussi Vidyarthi, il y a 5 livres qui traitent de ce sujet. Tous ces écrits ont démontré que finalement, sans même l'avoir démontré, ils ont prouvé que toutes les religions qui existent sur Terre sont à la base des religions monothéistes qui ont été déformées par leurs adeptes avec le temps. Le Coran nous donne un exemple de cela avec les divinités qui existaient à l'époque de Noé, alayhi salam. Noé, quand il est venu, quand il a été envoyé quand il a reçu et quand il a été investi de la prophétie, son rôle était de combattre l'ilhad, shirk, l'associationnisme, le premier associationnisme que l'humanité a connu. وَقَالُوا لَتَدَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ce sont 5 personnalités. Ces personnalités ont été élevées au rang de divinité. C'était des statuettes que les gens adoraient. À la base, c'était des saints.
Salihun, oui.
C'était des gens vertueux. Ouais. Et pour perpétuer leur mémoire, on a décidé d'édifier à leur image, à leur effigie, des statues qui, avec le temps, ont fini par être adorées à la place de Dieu. La Mecque, par exemple. Il y a eu, après Ibrahim, alayhi salam, comment est-ce que le fétichisme est entré dans les mœurs religieuses des Arabes? Comment l'idolâtrie s'est-elle incrustée aussi? Il y a tout un processus. Au tout début, les gens adoraient Dieu, et Dieu seul. Et ils avaient les rituels du pèlerinage pratiquement tels que nous les connaissons actuellement. Ensuite, il y a eu une période de disette, de grande disette. Et beaucoup se sont vus dans l'obligation de quitter la Mecque pour aller là où l'herbe était plus verte, on va dire. Et par amour pour cette terre, pour cette maison sacrée de Dieu, beaucoup ont emporté avec eux des pierres. Et quand la période du pèlerinage arrivait, certains sortaient ces pierres pour se remémorer cet endroit. Et peut-être que l'on a commencé à partir de là à simuler même la circumambulation, le tawaf autour de ces pierres, comme on le faisait autour de la maison sacrée de Dieu. Et c'est ainsi que le fétichisme a pris place dans la pratique religieuse de ces premiers arabes musulmans, enfin, adeptes de la religion d'Abraham, paix sur lui. Pour ce qui est de l'idolâtrie elle-même, on parle d'un notable de la tribu de Khouza'a qui, en passant par... là, nous sommes à une époque où le fétichisme était déjà ancré dans les mœurs. Donc, il passe par une région qui s'appelle le Balqa, qui se trouve actuellement au sud-est, normalement, ou au sud-ouest de la Jordanie. Et là, il trouve des gens en train d'adorer une idole qui s'appelait Hubel. Subjugué par ce que faisaient ces gens-là, il leur a demandé de lui donner Hubel pour le mettre dans l'enceinte même de la maison sacrée, ce haut lieu qui était normalement dédié au monothéisme, et on le lui a donné. Donc les déviations, elles se font généralement à petits coups, mais sur des périodes relativement longues. À la base, toutes les religions sont des religions monothéistes. Et pour revenir aux Védas, dans les Védas, vous allez lire un certain nombre de choses qui se rapprochent énormément du Coran. Pour certains récits, donc, il y a une personnalité qui s'appelle Noun qui est citée. Et il ne peut s'agir que de Noé alayhi salam, parce qu'il est question de la fabrication de l'arche, il est question aussi du déluge. Vous avez un haut lieu du monothéisme qui est cité, qui s'appelle Mektashwar. Ça ne pourrait être que la Mecque, selon les auteurs des livres que nous allons citer. Et puis, quand on vous parle du fameux Kalki Avatar, l'homme que beaucoup d'hindouistes attendent pour la fin des temps, qui est le messie pratiquement indien, eh bien, un certain nombre de signes qui ont été donnés par les Védas ne pourraient que confirmer qu'il s'agisse là de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors on vous dit, ce fameux Kalki Avatar viendra vers la fin des temps, il habitera dans une île. Or il se trouve que le golfe arabique est une presqu'île. Jaziratul Arab. Il est dit qu'il recevra la révélation dans le texte, dans la traduction en anglais, il est dit in a cave. Cave signifie grotte. Et il est dit, entre autres, que son père s'appellera Bhagavat Vishnu, donc
l'adorateur de Dieu.
L'adorateur ou l'esclave de Dieu, Abdullah. Il est dit que sa mère s'appellera Somanib, ce qui signifie apaisé.
Amina.
Aminatun.
Pas Amina.
C'est pas Amina, non. Ouais. Non, c'est pas Amina comme Amin. C'est Aminatou. Amina, donc l'apaisée. Elle se sent dans une... C'est une femme qui est dans l'apaisement, qui se sent en paix avec elle-même. Donc il y a beaucoup de signes. Et Ved Prakash lui-même, après avoir écrit ce livre...
On parlera, excusez-moi de vous interrompre, même du miracle de la fonte de la lune. Hein.
Absolument.
On parle d'un prince hindouiste qui a cherché la vérité, qui a demandé au vieux, au grand conseiller de sa nation. Et on lui a indiqué que réellement, il y avait un prophète qui était né dans l'Arabie.
Je n'ai jamais eu vent de cette histoire. Bon, malheureusement pour moi, mais bon, le problème est que le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait été cité dans tous ces livres, qu'est-ce que ça a donné? Alors, en un premier temps, les dignitaires religieux qui étaient dépositaires de ces traditions ont commencé par essayer d'effacer ces traces. Et comme le dit Abdel Ahad Daoud, des bon nombre de prêtres et de rabbins qui se sont convertis à l'islam, il y a eu énormément d'altérations, pour ne pas parler de falsifications, dans les deux Bibles, juive et chrétienne. Ensuite, qu'est-ce qui allait se passer, se produire? C'est que le fait d'effacer toutes ces traces ne suffit pas. Donc on va commencer à œuvrer dans le but d'effacer toute la religion elle-même. Et le problème est que si vous prenez l'exemple, par exemple, de l'Inde actuellement, les autorités indiennes, incarné par ce parti raciste qui gouverne le pays actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont dans
le nettoyage ethnique, la purge.
Alors on commence déjà au niveau des administrations, de ce que l'on
peut,
de
ce qui
fait l'état civil. On commence par brûler l'état civil. Alors c'est des dizaines de milliers d'extraits de naissance ou de registres qui sont brûlés. Ensuite, une fois que ces registres aient été brûlés, on passe à la purge, à l'épuration ethnique. Et même quand il y a une enquête officielle internationale, vous arrivez sur place, vous ne trouvez aucune trace de ces prétendues personnes qui auraient été éventuellement brûlées, calcinées ou réduites en cendres. Et il devient actuellement plus que salutaire pour ce que nous appelons en langue arabe l'amn al-fikri, c'est-à-dire la sécurité culturelle et intellectuelle de nos jeunes d'avoir une connaissance de tout cela.
Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam. Nous sommes ensemble tous les vendredis à 5h et à 14h. Mais vous avez aussi l'émission que vous pouvez écouter en replay, en mode podcast, sur le site de Radio Algérie Chaîne 3. Kama Shakat Dieu Subhanahu dans la sourate Rad, dans le dernier verset de sourate Rad, verset 43, il dit « وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ » Alors ceux qui connaissent les Écritures savent que Mohammed est prophète, alayhi salatu wassalam.
Absolument, absolument. Écoutez, c'est le verset que vous venez de citer, il nous renvoie au verset 157 de Sourate Al-A'raf. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit ou mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. C'est-à-dire, ça, on ne peut pas être plus clair. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Et nous avons, je crois, la semaine dernière, nous avons même parlé, évoqué le passage du 29e chapitre d'Ésaïe, qui dit au verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Et nous l'avons démontré par le biais du verset 11 qui précède ce verset, qu'il s'agit là de révélation et non d'un écrit quel qu'il soit, parce que au verset 11, il est dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Vous savez, il y a énormément de passages qui ne laisse aucun doute que la seule personnalité qui pourrait être concernée par ces écrits ne peut être que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Kamal Shakat, le verset que vous venez de citer, celui de la sourate Al-A'raf, a une concordance avec le livre d'Ésaïe, le chapitre 42, versets 6 et 7, où il est dit « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Et il poursuit, verset 7, « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. »
Et le verset ne pourrait en aucun cas concerner les Israélites parce qu'ils ne répondent pas à tous ces gens-là, à tout ce qui est cité dans ce texte.
Kamal Shakat, vous avez cité le professeur Abdel Ahad Daoud Al-Ashouri, ancien archevêque de Mossoul, converti à l'islam, qui a dit, je le cite, « L'expression répandue chez les chrétiens, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, ne se disait pas comme cela, mais bien... Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que l'islam soit sur la terre et aux gens d'Ahmad. Oui. Alors, ceux qui connaissent véritablement les livres et qui ont une grande foi en Dieu subhanahu ont trouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un continuateur de la loi de Moïse, de David, de tous les prophètes précédents. Alors, on a deux groupes. Il y en a ceux qui ont cru, d'autres ont mécru. On a des exemples, justement, lors de l'avènement de Sidna Rasulullah, notamment à Médine, des juifs, des rabbins qui ont cru.
Absolument.
Et d'autres non.
Déjà, nous savons, selon ce qui nous est rapporté par bon nombre d'historiens, de spécialistes de la biographie, comme Ibn Ishaq ou bien Ibn Hisham, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anh, que les juifs imploraient la victoire sur les tribus de l'Aws et le Khazraj grâce à l'avènement imminent d'un envoyé de Dieu. Et quand justement cet envoyé ou cette personnalité fut envoyée, étant un arabe, ils mécrurent et renièrent ce qu'ils disaient auparavant. Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, leur dit alors aux juifs, craignez donc Allah et embrassez l'islam. Nous étions polythéistes avant le message. Et vous imploriez le secours et la victoire grâce à la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous nous disiez qu'il serait bientôt envoyé en nous donnant ces descriptions. Et vous savez, il l'appelait Al-Munhammana. C'est une appellation qui rejoint le... Puisque vous parliez de Abd al-Ahad Daoud, rahmatullahi alayh, ça rejoint justement Mahamadim, Himda dans l'Ancien Testament, ça rejoint Eudokia dans cette prière des anges que vous avez citée. Le problème avec, signalons-le, avec les deux testaments, c'est que les textes initiaux étaient des textes en grec. Les textes originaux, c'était de l'araméen ou de l'archaïque ou de l'hébreu. Ils ont été traduits au grec. Tous les textes originaux ont été sûrement brûlés. Ensuite, on a travaillé sur une traduction pour une restitution du texte original. On a traduit du grec vers l'hébreu, ou bien du grec vers le latin. Alors, je vous laisse imaginer toute la déformation que pourrait connaître le texte original, quand bien même ceux qui auraient fait ce travail aient été des gens fiables, rigoureux et qui n'avaient aucune intention de déformer les textes. J'invite nos auditeurs à se livrer à un petit jeu. Prenez une phrase, allez dans l'un des sites connus de traduction, écrivez une phrase par exemple en français, traduisez-la en arabe, puis retraduisez-la en anglais, puis mettez-la en allemand.
On perd tout son sens.
Puis revenez vers le français et vous allez vous rendre compte que la phrase a été complètement déformée. C'est ce qui est arrivé avec ces deux livres. Nous savons, par exemple, qu'un certain Salem ibn Mishkam, un juif de la tribu de Beni Nadir, ce Salem ibn Mishkam, vous savez, quand le messager de Dieu, alayhi salam, est allé voir la tribu de Beni Nadir pour l'aider dans le prix du sang d'une personnalité qui a été tuée par des musulmans, alors au début, ils ont dit « Nafa'alou ya Abul Qasim ». Il l'appelait comme ça, Abul Qasim. Et quand ils se sont rencontrés donc en vase clos, ils ont dit c'est l'occasion rêvée de le tuer. Il est chez nous et nous n'avons qu'à envoyer quelqu'un sur le toit de cette maison puisqu'il est adossé à son mur et de lui jeter une pierre sur la tête. Il le tuera et cette affaire de Mohammed sera terminée à perpétuité, à jamais. Et c'est ce même Salam ibn Mishkam qui s'est levé et qui a dit la taf'alou wallahi la yukhbaranna min as-sama. Il va être informé par le ciel, parce qu'ils savaient tous que c'était un prophète. Donc, dans ce qu'a dit Mu'adh ibn Jabal, qui disait aux Juifs, craignez Allah et embrassez l'islam, quand nous étions polythéistes, vous imploriez le secours et la victoire grâce à la venue d'un prophète. Il disait, ce prophète viendra et, parce que eux, c'était des gens du livre et les autres étaient des polythéistes. Donc, quand ce prophète viendra, c'est lui qui nous secourra. Salam ibn Mishkam donc lui répondit, il ne nous a rien apporté de ce que nous connaissions et il n'est pas le prophète dont nous vous parlions. Dieu fit alors donc descendre une révélation, c'est le verset 89 de sourate Al-Baqara qui dit « Et quand ils reçurent de la part d'Allah un livre corroborant leurs propres écritures, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement nié. » Donc il y avait une connaissance certaine du dernier messager. Nous savons que les Juifs étaient des pasteurs nomades. C'était des gens qui ne s'implantaient nulle part. Le seul endroit où ils se sont implantés, on va dire un siècle avant la venue de Mohammed, c'était dans la presqu'île arabique, Shibh Jazirat al-Arab. Ils n'étaient pas à la Mecque, ils étaient à Médine. Parce que leurs écrits, parce que l'essentiel même de l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déroulé à Médine. Et les signes distinctifs qu'ils avaient, parler d'une personnalité qui allait vivre dans cet endroit. Et ils se sont trouvés là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une connaissance parfaite et très précise de l'endroit où allait, on va dire, jaillir, ou bien se faire connaître, où l'islam allait se faire connaître. Et c'est pour cela que quand vous étudiez ce qu'on appelle les glossaires bibliques, ou bien la géographie sacrée chez les juifs et les chrétiens, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'endroits qui sont brouillés, les pistes sont brouillées pour que vous ne puissiez en aucun cas déterminer la place dont il est question dans un texte ou dans un autre. Le dernier coup de grâce qu'ont reçu justement essentiellement les juifs, c'est que la ville de Sion se trouve actuellement en Arabie Saoudite. Maintenant, c'est bon, il y a une recherche archéologique, nous sommes dans le monde de la science, nous ne sommes plus dans le monde de la spéculation. Sion ne se trouve pas en Palestine occupée, Sion se trouve en Arabie Saoudite.
Et pourtant, Dieu subhanahu dit au prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, si tu doutes, demande au peuple du livre. Hein, et vous avez la question qu'a posée Omar ibn al-Khattab à Ka'b al-Ahbar, qui s'est converti après le décès de Sidna Rasulullah. Omar lui posant la question, « Akuntum ta'rifunahu ya Ka'b ?»« Qala a'rifuhu ka ma'rifati libni wa ma'rifati li Mohammed ashad. » Qala limadha ?» Omar lui disant pourquoi. « Qala li anna bni akh أخاف أن تكون امرأتي خانتني فيه أما هذا فلا. Et d'ailleurs, vous l'avez dans la sourate Al-Baqarah où Dieu dit لَذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Donc il y a beaucoup de détails sur la personne de Sidna Rasulullah dans leur livre Kamashakat.
Absolument.
Il n'a pas juste été évoqué comme ça.
Écoutez, il y a problème avec les juifs et les chrétiens, c'est qu'ils vont jouer sur cette notion de messianisme. Donc il va y avoir quelqu'un qui va venir. Et il va y avoir une sorte de salvateur, de héros qui va venir donc redorer le blason de la religion de Dieu, tout simplement. Et cet homme, alors pour les juifs, il ne pourrait être qu'un descendant de David. Et pour les chrétiens, il ne pourrait s'agir que de Jésus, alayhi salam. Donc à chaque fois que nous sommes dans cette logique du Messie, il y a donc des spéculations de part et d'autre. Mais le problème est que quand vous étudiez un certain nombre de textes parlant justement de ce Messie, vous allez vous rendre compte que les deux font vraiment fausse route. Le mot Messie désigne sur le plan religieux une personne ou un objet qui a reçu l'onction, c'est-à-dire qui a été frotté d'une huile sainte afin d'être consacré à Dieu. C'est ça le Messie. Et à ce titre, vraiment le seul messager qui peut vraiment revêtir entre guillemets ce titre, c'est Sidna Isa alayhi salam, parce qu'il a vraiment été consacré à Dieu. Déjà, sa mère a été consacrée à Dieu par sa propre mère, donc par sa grand-mère maternelle. Et lui, il va jouer un rôle, il est là, il est dans une mission qui lui a été assignée par Dieu, et il ne sort pas de cette mission. Alors, on dit de quelqu'un, par exemple, qui a reçu une consécration, un oint, c'est O-I-N-T, d'où l'appellation oint du Seigneur, concernant Jésus, alayhi salam. Le Messie en langue française se traduit par Christos en grec, ce qui nous donnera Christ en français. Le Messie désigne aussi un envoyé de Dieu attendu pendant une longue période pour le salut de l'humanité. Donc, dans le judaïsme et le christianisme, il s'est développé au fil des siècles toute une théologie se rapportant justement au Messie. La chose s'inscrivant dans une compétition entre les deux religions, attention, a pris donc la chose, elle a pris une ampleur telle qu'un courant appelé messianisme allait se forger autour du Messie au fil des siècles. Quand vous étudiez le judaïsme plus particulièrement, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un travail qui a été fait justement sur le Messie. Et après le retour de la captivité, on s'était rendu compte que toutes les prophéties ne s'étaient pas réalisées. Et donc, au lieu de parler d'un Messie davidique, donc quelqu'un qui allait être normalement le descendant direct de David, on a commencé à parler d'un autre Messie qui pourrait être Élie, par exemple. Et il y a eu tout un jeu là-dessus.
Élie, Idriss alayhi salam.
Élie c'est Elias et Élisée c'est Eliasa. Donc Élisée était un prophète, même pour les juifs et les chrétiens, il était considéré comme prophète et non comme patriarche, parce que Ibrahim alayhi salam est considéré comme
on en connaît que cinq
comme patriarche. Donc il y a le problème justement du Messie s'est posé. Au lieu d'attendre une descendance pieuse d'un David alayhi salam ou d'un Haroun alayhi salam, on a commencé à spéculer sur autre chose. Et les chrétiens, à chaque fois qu'il était question d'une personnalité qui allait venir vers la fin des temps pour restaurer le monothéisme, on parlait de Jésus, alayhi salam. Sauf que le problème avec les chrétiens, c'est que on peut lire dans l'évangile de Jean, si je ne m'abuse, on a envoyé, après que Jésus ait été élevé, on a envoyé à Jean, alayhi salam, je dis alayhi salam par extension, tout simplement, c'était un apôtre, on lui a envoyé des dignitaires juifs, donc des lévites, qui sont venus l'interroger, parce qu'on attendait la venue d'Élie. Et on lui dit, es-tu Jésus? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non encore une fois. Es-tu le prophète? Et cette notion du prophète, en plus de Jésus alayhi salam et de la venue d'Élie, vous allez la retrouver au moins à deux ou trois reprises dans le Nouveau Testament. Donc déjà, même chez les chrétiens, on parlait de la venue d'un prophète. Toujours dans l'évangile de Jean, il n'y a pas plus clair que cette citation du paraclète. Beaucoup disent paraclet, mais comme c'est un nom qui n'est pas d'origine française, je préfère citer je préfère prononcer le T de la fin. Pourquoi? Parce que c'est parakletos ou pericultos. Et j'insiste sur pericultos parce que ça ne pourrait être qu'un pericultos plutôt que parakletos. Il n'y a pas uniquement un ou deux passages qui vont parler de ce dernier prophète. Il y a énormément de passages.
Alors, Kamel Shekat, je reviens juste à ce terme que les Grecs ont inventé concernant Sayyidina Isa alayhi salam, le Christ. J'ai vu une vidéo d'Ahmed Didet où il disait que c'était inventé de toutes
pièces.
Non,
on parle de Christ ou de Christos pour
dire
rejoindre
qu'il est sacré,
qu'il a été baigné dans une huile sacrée. Tout simplement.
Alors, pour revenir à Ahmed Didet, il disait qu'on n'avait pas à précéder le nom de Jésus, de Christ. Il a un nom, Sayyid al-Masih, c'est Isa. Et puis, il revient aussi sur cette folie qu'on est judéo-chrétien à traduire les noms propres,
oui,
ou à rajouter le J à Yusha, à Ayoub, à
oui,
Isa.
Absolument.
Quel était le nom de Isa chez les Juifs, Kamel Shekat? C'est pas Jésus.
Écoutez, c'est pas Jésus. Et justement, il y a une fois, j'ai reçu une lettre à travers Facebook d'une Algérienne qui me disait, nous avons un médecin français qui a énormément de questions qu'il voudrait poser, et il faut quelqu'un qui soit assez connaisseur justement sur le plan religieux pour y répondre. J'ai dit oui, mais à condition que l'écrit que va recevoir cet homme soit publié. Bon, on ne citera pas son nom. Il s'agit d'un médecin. Et j'ai eu l'occasion justement de discuter avec ce médecin par téléphone une fois alors que j'étais à Paris. Et ce qui m'a semblé, hein, c'est que c'était un ennemi, mais alors un ennemi déclaré de l'islam et des musulmans. Mais avec, quand il me parlait au téléphone, il était vraiment à la limite
la haine.
Odieux. Mais c'était, oui, mais oui, vous parlez, mais maintenant nous avons lu le livre de Halawardi, franchement, l'islam. Et l'une des questions, c'était, comment se fait-il que les Arabes chrétiens appellent Jésus Yassoua, alors que vous l'appelez Isa? Mais soyons sérieux, si vous lisez les noms, si vous avez un tant soit peu de connaissances concernant les noms propres juifs, nous avons cité aujourd'hui à deux reprises Isaïe, qui est l'un des prophètes mineurs. Isaïe, c'est quoi Isaïe? C'est Ishaï, c'est comme Isa tout simplement. Donc le nom, c'est un nom qui était connu chez les juifs. À la limite, Yahya alayhi salam, lam naj'al lahu min qablu samiya, qu'on appelle Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste ou Jean tout court, à ne pas confondre avec l'apôtre de Jésus qui est Jean, qui est l'un des détenteurs d'un des évangiles dits canoniques. Isa alayhi salam, Si on travaillait réellement sur l'origine même de ce nom propre, il pourrait coïncider énormément avec Ishaï, qui est Isaïe.
Merci de rester avec nous sur Alger-Chin 3 et c'est au cœur de l'islam que vous écoutez. Nous sommes ensemble tous les vendredis sur Alger-Chin 3 à 5h et à 14h. Et aujourd'hui, nous évoquons avec Kamel Chekat toutes les prophéties de la venue de Sidna Rasulullah dans les livres sacrés. Alors Kamel Chekat, justement dans le Deutéronome, qui est considéré comme le cinquième livre de la Torah, il est écrit « Je susciterai pour eux un prophète comme toi ». Du milieu de leurs frères.
Oui.
Décortiquez s'il vous plaît ce verset Kamel Chekat.
Alors, il s'agit du chapitre 18.
Oui.
Le verset, ce sont les propos de l'Éternel, de Dieu subhanahu wa ta'ala,
s'adressant à Moïse.
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, se basant sur des passages de la Bible relatives à Ismaïl alayhi salam, tels qu'une bribe du verset 12 du chapitre 16 de la Genèse qui dit d'Ismaël « Et il habitera en face de tous ses frères » ou bien le verset 18 du chapitre 25 de la Genèse qui dit « Ses fils habiteront depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie, il s'établit en présence de tous ses frères, c'est-à-dire devant les descendants d'Esau, d'Isaac et des autres enfants d'Abraham. » Donc Ahmed Didat, rahmatullah al-Hindi, présente ce passage du Deutéronome comme l'une des prophéties annonçant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des enfants d'Ismaël, qui est l'un des frères d'Isaac. C'est ça leur frère.
Un prophète comme toi. On a dit qu'un prophète comme toi a été Sidna Isa alayhi salam.
Là, il faut... Vous savez, quand Didat justement parle de ça, un prophète comme toi, issu du milieu de leurs frères.
Comme toi, Moïse.
Comme toi, Moïse, oui.
D'accord.
Bien sûr.
Est-ce qu'il est comme Moïse ?
Il n'est pas justement comme Moïse.
Sur quel plan, Kamel Chekat ?
Alors, premièrement, il n'était pas porteur d'une loi.
D'abord, la naissance, Kamel Chekat.
Oui, la naissance, c'est une naissance miraculeuse.
Sans père.
Sans père. Il n'était pas comme Moïse, il n'était pas porteur d'une loi.
Il était confirmateur de la loi de Moïse.
En termes de loi, il était subordonné à Moïse, qu'on le veuille ou non. Lui, Jésus alayhi salam, était porteur d'un enseignement spirituel qu'on appelle l'évangile, ça veut dire le bichara, évangélium ou évangélos.
Moïse s'était marié, a fondé un foyer, Jésus non.
Il n'a pas eu de descendance.
Oui.
Et sur plusieurs plans, en termes de...
Il y a beaucoup de similitudes entre Sidna Rasulullah et Moïse.
Vous savez, il n'y a pas... Oui, il y a énormément de similitudes.
Il y a même un hadith du prophète de l'islam qui disait, quand il vivait des moments terribles, il disait « Moïse a vécu la même chose ».
Oui, absolument. Sa fuite d'Égypte, avant de rencontrer Jéthro, son retour, oui. Avec toute la peur qu'il accompagnait, tous les déboires qu'il a connus avec les Hébreux, qui était, on ne peut, d'ailleurs nous citerons des textes émanant de leurs propres écrits, qui sont considérés actuellement comme des écrits saints, qui démontrent que c'était un peuple fourbe, mais alors fourbe à ne plus en pouvoir. Donc déjà le fait de dire « comme toi » exclut d'entrée de jeu
Isa
alayhi salam. Que les chrétiens le veulent ou pas, hein, c'est une réalité. D'un autre côté.
On pourrait vous dire que c'est une interprétation chauvine de votre part, Kamel Chekat.
Oui, ils peuvent le dire, écoutez.
Que les musulmans font tout pour légitimer leur prophète et...
Justement, sur ce verset que nous venons de citer, je ne me base pas beaucoup sur cette bribe qui dit « Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères ». Ça ne peut pas avoir énormément d'importance.
Selon Didat, c'est très important.
C'est très important, mais attention,
Didat... Parce que dans l'alliance, Kamel Chekat, dans son alliance avec Isaac et Ishmaël,
oui.
Il en a fait deux nations,
oui.
Deux grandes tribus qui allaient chanter sa gloire.
Mais le problème est que là, on pourrait objecter cette affirmation de Didat et de Rahmatullah al-Hindi, parce que si vous remontez aux deux premiers versets de ce même chapitre 18 du Deutéronome, il est dit au sujet des sacrificateurs lévites. Donc le verset 1 du chapitre 18 nous dit « Les sacrificateurs, les lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. » Et là, écoutez, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Donc si un juif ou un chrétien vient vous dire, vous savez, leur frère ne peut pas signifier automatiquement les descendants d'Ismaël, parce que là, il est question de leur frère justement, en parlant des Lévites et des sacrificateurs. C'est pour cela que on va beaucoup plus travailler sur cette bribe qui dit « comme toi ». Et là, Jésus alayhi salam n'est pas comme Moïse alayhi salam, c'est beaucoup plus Mohammed sallallahu alayhi salam qui aurait tendance à se rapprocher. Rahmatullah al-Hindi justement revient sur ces points, il dit il est serviteur et prophète de Dieu, il a un père et une mère, il a des enfants et une famille, sa religion contient aussi une législation politique, la guerre lui est prescrite comme à Moïse, il prescrit la propreté corporelle avant d'accomplir les pratiques religieuses, les ablutions. À l'heure actuelle, vous savez, si vous étudiez bien le christianisme, vous allez vous rendre compte que Paul de Tarse a aboli toutes les lois mosaïques. Donc tout ce qui peut relever...
Y compris la circoncision.
Absolument. Et donc il a l'obligation de se laver, il y a l'obligation de se laver pour ceux qui ont une pollution, ce qu'on va retrouver dans le Lévitique, pour les femmes qui ont leurs règles et pour les femmes en couche, la prescription relative à la propreté des vêtements qui ne doivent pas être salis d'urine par exemple, la défense des animaux tués sans la formule légale et des sacrifices faits aux idoles. Tout ça, ça n'existe pas chez nous et dans le judaïsme. Il y a ce que nous appelons l'immolation, c'est-à-dire dakat shar'iyya. On égorge un animal, l'abattage se fait selon un culte bien précis. Il y a les préceptes relatifs aux détails du culte, la punition de l'adultère, la détermination des peines et des supplices, le pouvoir, comme Moïse, de mettre ses lois en vigueur, la défense de l'usure, la désapprobation de ceux qui prêchent un autre culte que celui de Dieu, et là, avec Paul de Tarse, on a été plus que servi. C'est lui qui va être à la base même de la Trinité, qui ne va pas se faire en deux temps trois mouvements. Attention, hein. Le début, ça sera le concile de Nicée avec Constantin. Et je crois qu'il va falloir attendre pratiquement deux siècles ou un siècle pour incorporer l'Esprit Saint dans cette Trinité. Il y a la défense, par exemple, de l'appeler autrement que serviteur de Dieu et apôtre de Dieu, comme Moïse. Et comme Moïse, le messager de Dieu, alayhi salam, il est mort dans son lit et il a été enterré, ce qui n'est pas le cas de Jésus, alayhi salam. Il n'a pas été maudit par son peuple, ni Moïse, ni Mohammed, alayhi salam, ce qui n'est pas le cas de Jésus, alayhi salam, qui a été maudit par son peuple, les Hébreux. Donc, on ne peut pas focaliser sur Jésus. Et puis... Il faut aussi faire une autre remarque. Après Moïse alayhi salam, il y a eu comme prophète, il y a eu Salomon, il y a eu Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Malachie, Jean le Baptiste, etc. Pourquoi ce ne seraient pas ces gens-là qui seraient concernés par ce verset? Parce que les chrétiens vous disent, un prophète comme toi, ça ne peut être que Jésus. D'un autre côté, les chrétiens ne semblent pas lire leurs évangiles en y mettant le cœur et l'attention qu'il faut. Il est dit au chapitre 1 de l'évangile selon Jean, voici le témoignage de Jean, lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et puis, ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» De quel prophète s'agit-il ici ? Et il répond, « Non. » On lui demande s'il est le prophète, parce qu'on attendait un prophète, après lui avoir demandé s'il était le Christ et s'il était Élie. Parce que Élie était normalement le Messie sacerdotal. Celui qui n'était pas normalement le Messie davidique, roi, etc. C'était quelqu'un qui allait
avec
venir.
Lequel la prophétie devait finir chez les Juifs.
Normalement, oui. Mais bon, ça c'était une option, c'était une sorte d'échappatoire qui a été, on va dire, inventée juste pour échapper aux prophéties qui parlaient d'un David, d'un Messie plutôt davidique, donc d'un roi à l'image de David et Salomon. Et ils lui dirent donc après cela, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Il y a un retour sur le prophète. Jean le répondit.
Un mystère autour du prophète.
Oui, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Dans ce texte, donc, Jean subit un interrogatoire de la part des pharisiens, ennemi juré du Christ, alayhissalam. Il lui demande qui il est réellement, et trois personnalités sont évoquées, comme nous venons de le voir, le Christ, Élie et le prophète. Et là, donc, tout ceci implique en définitive que le prophète dont il est question dans la prophétie du Deutéronome ne peut en aucun cas s'appliquer à Jésus, alayhissalam. D'un autre côté, la fin du verset 18 que nous avons cité nous dit « Je mettrai mes paroles dans sa bouche ». Pourquoi ce prophète allait se voir mettre les paroles de Dieu dans sa bouche? Mohammed était-il lettré? Donc, « Ma yantiqu anil hawa »«
Il leur dira tout ce que
illa wahyun yuha ». Enfin, n'est-il pas dit au chapitre 32 du Deutéronome qu'il n'y a plus eu de prophète comme Moïse dans le peuple d'Israël? Les versets 7 à 12 nous disent, donc nous sommes dans le chapitre 32 du Deutéronome, « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. » Josué, et là encore, Josué était, quand ce verset a été révélé à Moïse, selon ce que nous dit le Deutéronome, Josué était présent et il n'était pas du tout concerné par cette prophétie. Donc Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui, donc c'est comme s'il lui avait transmis la prophétie. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Donc
cette prophétie ne s'est pas accomplie chez les fils d'Israël?
Pas du tout. Elle ne s'est pas accomplie chez les enfants d'Israël, et Moïse était un prophète spécial. D'ailleurs, dans la littérature musulmane, nous parlons de Ulul Azmi min al-Rusul. C'est les prophètes doués d'endurance, ceux qui se sont vraiment illustrés par leur combat contre
le mal. Rappelez-les, Kama Shaket, ils sont cinq.
Ils sont de l'ordre de cinq avec une petite divergence. Nous parlons d'Adam, d'Abraham. De Moïse, de Jésus et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour d'autres avis, on met de côté Adam et on rajoute soit Noé, soit David, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de prophète semblable à Moïse parmi les enfants d'Israël. Et Jésus faisait partie de ces enfants d'Israël. Ça, déjà, rien que ça, ça répond justement à cette interrogation des chrétiens qui dit pourquoi ça ne pourrait pas être Jésus. Ça ne peut en aucun cas s'appliquer à Jésus.
Eh bien, merci à vous, Kama Shaket, pour tous ces détails. Bien sûr, les arguments concernant les prophéties de la venue de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les livres révélés, ça sera aussi notre thème les semaines à venir. On pourrait aussi revenir, Kama Shaket, sur l'alliance de l'Éternel avec les deux fils d'Abraham.
Absolument.
Eh bien, merci de rester avec nous tous les vendredis à 5h et à 14h sur Al-Jishan 3 dans Au cœur de l'Islam. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous écrire vos commentaires sur la page Au cœur de l'Islam, chaîne 3. Merci beaucoup à vous tous et bon week-end. Au revoir.